7. Bien qu'il y eût des bancs et de longues tables à tréteaux, seuls les plus âgés mangèrent leur dîner assis. Et ce fut là un fameux dîner avec un choix de 200 plats pour la plupart simples et délicieux. On commença par un toast à la cala. C'est von Eisenhardt qui en fut l'instigateur, debout avec dans une main un verre plein et dans l'autre la plume. Eddie se dit qu'il s'agissait probablement là de l'hymne national, version croissant. « Puisse-t-elle toujours bien prospérer ?» cria le rancher. Puis il avala son verre de Graf Cusack en une ample gorgée. Eddie admira la gorge de l'homme, ne serait-ce que ça. Le Graf de Calabrian Sturgis était si fort que le simple fait de le renifler vous mettait les larmes aux yeux. « Grand bien !» s'exclamèrent en chœur les Falken. Puis ils trinquèrent et burent. Au même moment, les torches du pavillon prirent la teinte rouge vermillon du soleil qui venait de se coucher. La foule y alla de ses « oh » et de ses « ah » suivis d'applaudissements. D'un point de vue technologique, Eddie ne vit là rien d'extraordinaire comparé à Blaine Le Mono ou aux ordinateurs dipolaires qui menaient l'Ode. Mais cela projetait sur l'assemblée une lumière charmante et ça ne paraissait pas toxique. Il se mit lui aussi à applaudir. Susanna en fit autant. Andy lui avait apporté son fauteuil roulant et l'avait déplié en la félicitant. Il avait aussi proposé de tout lui dire de ce bel inconnu qu'elle allait bientôt rencontrer. À présent, elle déambulait parmi les petites grappes de gens, une assiette de nourriture sur les genoux, discutant à droite, avançant un peu, discutant à gauche, poursuivant sa route. Eddie put en déduire qu'elle avait eu sa part de cocktail et de fête dans le genre de celle-ci, et il se sentit un peu jaloux de cette aisance. Eddie remarqua des enfants dans la foule. Les Falcon avaient visiblement conclu que leur visiteur n'allait pas se mettre à tirer dans le tas et faire un carnage. Les enfants les plus âgés avaient le droit de se promener où bon leur semblait. Ils se déplaçaient par petites meutes protectrices, celles qu'Eddie se rappelait de sa propre enfance, prélevant des quantités gigantesques de nourriture sur les tables. Pourtant, même les appétits voraces d'une bande d'adolescents n'auraient pas suffi à entamer sérieusement un tel butin. Ils observaient les nouveaux venus sans toutefois oser les approcher. Les plus jeunes restaient aux côtés de leurs parents. Les malheureux pris dans l'âge ingrat de la préadolescence s'agglutinaient autour du toboggan, des balançoires et d'une cage à écureuil élaborée tout au bout du pavillon. Un petit nombre s'en servait vraiment, les autres se contentant de regarder la fête avec ce regard perplexe de ceux qui ne se sentent pas à leur place. C'est vers eux que le cœur d'Eddie le portait. Il pouvait compter le nombre de pères, ça donnait le frisson, et il se dit que c'était ceux-là, ses enfants perplexes, juste un peu trop vieux pour jouer gaiement à la balançoire, qui seraient la cible privilégiée des loups, si on les laissait faire, bien sûr. Il n'aperçut aucun des crânés, et il se dit qu'on les avait écartés sciemment pour ne pas jeter une ombre sur les réjouissances. Eddie comprenait cette attitude, mais il espérait qu'eux aussi faisaient la fête de leur côté, quelque part. Plus tard, il apprit que tel avait été le cas, biscuits et crème glacée derrière l'église de Callahan. Jake aurait eu tout à fait sa place dans le groupe intermédiaire s'il avait vécu à la Cala, ce qui bien sûr n'était pas le cas. Et il s'était fait un ami qui lui convenait parfaitement, plus vieux par l'âge, plus jeune par l'expérience. Ils allaient de table à table, grignotant au hasard. Otté trottinait sur les talons de Jake, l'air plutôt satisfait, balançant la tête de droite à gauche. Eddie n'avait cependant aucun doute sur le fait que si quelqu'un se montrait agressif envers Jake de New York ou envers son nouvel ami, Benny de la Cala, ce quelqu'un se retrouverait avec un ou deux doigts en moins. À un moment, Eddie vit les deux garçons échanger un regard et sans même se dire un mot, éclater de rire exactement au même instant. Et la scène lui rappela sa propre enfance avec une telle vivacité qu'il en eut mal. Non pas qu'Eddie eut beaucoup de temps pour l'introspection. Il avait appris des histoires de Roland et aussi des actions de Roland à diverses reprises que les pistoleros de Gilead avaient été bien plus que des agents de la paix. Ils avaient aussi joué les messagers, les comptables, parfois même les espions, plus rarement encore les bourreaux. Mais surtout, ils étaient avant tout des diplomates. Eddie, élevé par son frère et ses amis selon des principes de sagesse du genre « Pourquoi tu me broutes pas comme ta sœur ?» ou « J'ai niqué ta mère et je peux te dire que ça lui a plu », sans oublier le grand succès du siècle « Je la fermerai pas, t'es pas mon père, quand je vois ta tête, je gerbe par terre », ne s'était jamais considéré comme un diplomate. Mais l'un dans l'autre, il pouvait dire qu'il ne s'en tirait pas mal. Telford avait été coriace, mais le groupe l'avait fait taire. Grand merci à tous. Dieu sait que c'était pourtant qui tout double. Les habitants de la Cala craignaient peut-être les loups, mais ils ne se gênaient pas pour demander aux quatêtes de montrer patte blanche. Eddie comprit que Roland lui avait fait une grande faveur en le poussant à parler devant toute l'assemblée. Ça l'avait même échauffé pour la suite. Il leur dit à tous la même chose, sans relâche, qu'il leur serait impossible de parler stratégie tant qu'ils n'auraient pas inspecté la ville et ses alentours. Impossible de dire combien d'hommes de la Cala devraient les rejoindre. C'est le temps qu'il dirait. Il jetterait un coup d'œil à la lumière du jour. Il y aurait de l'eau, si Dieu le voulait, plus tous les autres clichés qui lui vinrent à l'esprit. Il fut même à deux doigts de leur promettre un poulet dans chaque marmite une fois qu'ils auraient vaincu les loups. Mais Dieu merci, il réussit à tenir sa langue. Un petit fermier du nom de Jerry Estrada voulut savoir ce qu'il ferait si les loups décidaient de mettre le feu au village. Un autre, Garen Strong, demanda à Eddie où seraient cachés les enfants pendant l'attaque des loups. « Parce qu'on ne peut pas les laisser ici, vous devez bien l'intuiter, » dit-il. Eddie, qui se rendait compte qu'il n'intuitait pas grand-chose, se contenta de prendre une gorgée de graffe et de rester dans le vague. Un type nommé Neil Faraday, Eddie ne sut dire s'il s'agissait d'un petit fermier ou d'un ouvrier agricole, s'approcha de lui pour lui dire que les choses étaient allées beaucoup trop loin. « Il n'emmène jamais tous les enfants, vous savez. » Eddie songea un instant à lui demander ce qu'il fallait penser d'un type qui dirait « Oh, vous savez, ils n'ont été que deux à violer ma femme. » Mais se ravisa. Un moustachu au teint très mat du nom de Louis Haycox vint se présenter et annonça à Eddie qu'il avait décidé que Tian Jaffords avait raison. Il avait passé pas mal de nuits blanches depuis la réunion à réfléchir à tout ça, et pour finir, il avait décidé de tenir bon et de se battre, s'il voulait bien de lui, bien entendu. Le mélange de sincérité et de terreur qu'Eddie lut sur le visage de cet homme le toucha profondément. Il ne s'agissait pas d'un gamin qui avait pris un coup de sang et ne savait pas bien dans quoi il s'engageait, mais d'un homme mûr qui ne le savait sans doute que trop bien. Ils venaient donc avec leurs questions et repartaient sans véritable réponse, mais l'air plus satisfait. Eddie parla jusqu'à s'en dessécher la bouche, puis troqua sa coupe de graffe en bois contre du thé froid, ne voulant pas finir sous. Il ne voulait plus rien manger non plus. Il était plein à craquer. Mais il en venait toujours plus. Cash et Estrada, Strong et Echevarria, Winkler et Spalter, des cousins d'Aberholzer, à ce qu'il comprit. Freddy Rosario et Farren Pozella. Ou bien était-ce Freddy Pozella et Farren Rosario. Tous les 10 à 15 minutes, les flambeaux changeaient de couleur. Du rouge au vert, du vert à l'orange, de l'orange au bleu. Les pichets de graffe allaient et venaient, les conversations se faisaient plus sonores, les rires aussi. Eddie entendit de plus en plus distinctement les « Mon salaud !» et aussi ce qui ressemblait à « Plonge bas !» toujours suivi d'éclats de rire. Il vit Roland en grande discussion avec un vieillard en cape bleue. Ce vieil homme avait la barbe la plus blanche, la plus longue et la plus épaisse qu'Eddie ait vue de sa vie, en dehors d'une série fleuve sur la Bible à la télé. Il parlait avec ferveur, regardant le visage buriné de Roland bien en face. Il toucha même le bras du pistolero, tira un peu sur sa manche. Roland l'écoutait, hochait la tête et ne disait rien. Du moins, tout le temps qu'Eddie passa à l'observer. « Mais ça l'intéresse, » pensa Eddie. Ah, que ouais, ce bon grand vieux Thomas chantant des choses qui l'intéressent au plus haut point. Les musiciens se réunissaient de nouveau dans leur kiosque quand Eddie vit quelqu'un s'approcher de lui. C'était le type qui lui rappelait Pa Cartwright. George Telford, annonça-t-il. Bienvenue, Eddie de New York, fit-il en se touchant le front du côté du poing sans grand enthousiasme. Puis il ouvrit la main et la tendit à Eddie. Il portait un chapeau de cow-boy et non pas un sombrero de fermier. Mais la paume de sa main était étonnamment douce, à l'exception d'une ligne calleuse qui courait à la base de ses doigts. C'est la marque des reines, pensa Eddie. C'est en ça que doit constituer l'essentiel de son travail. Tenir les rênes. Eddie s'inclina légèrement. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, Sally Telford. L'espace d'un instant, il voulut demander si Adam, Hoss et Little Joe étaient revenus à la Pandalosa, mais une fois encore, il décida de garder pour lui cette saillie extraordinaire. Et le double du compte pour vous, fiston, le double. Ses yeux se posèrent sur le pistolet en appui sur la hanche d'Eddie, puis remontèrent vers son visage. Il avait un regard perçant et pas particulièrement amical. C'est votre Dean qui porte son frère jumeau, j'intuite. Eddie sourit, mais il ne dit rien. Wayne Haverhalser dit que votre jeune K-Babé leur a fait un sacré numéro avec son arme à lui. C'est votre femme qui le porte ce soir, non? Il me semble, oui, répondit Eddie, peu enchanté par cette histoire de K-Babé. Il savait pertinemment que c'était Susanna qui portait le rugger. Roland avait décidé qu'il serait plus acceptable que Jake n'arrivât pas armé au Rocking Bee d'Eisenhart. À 4 contre 40, ça ferait un beau carton, pas vrai? Demanda Telford. Moi, je dis un sacré carton. Ou peut-être bien qu'ils vont venir à 60 parce que plus personne n'est sûr du nombre, ou d'ailleurs c'est normal. 23 ans, ça fait un bail, 23 ans de paix, si fait, et grand merci au Dieu et à l'homme Jésus. Eddie sourit et persista à ne rien dire, espérant que Telford allait changer de sujet. Espérant que Telford allait changer d'interlocuteur, en fait. Pas de chance. Les poivrons, il faut toujours que ça vous colle. C'était quasiment une loi de la nature. Bien sûr, à 4 armés contre 40 ou 60, ce serait bien mieux que 3 armés et le quatrième qui reste là à boire à votre santé. Surtout 4 armées de dur calibre. Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois très bien, oui, fit Eddie.
Sur l'estrade où il s'était présenté, Zalia Jaffords était en train de parler à Susanna. Eddie se fit la remarque que Suze avait l'air intéressée, elle aussi.
Elle se met la femme du fermier dans la poche. Roland se récupère ce foutu seigneur des anneaux de mes deux. Jake se fait un ami. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Un type qui ressemble à Pa Cartwright et qui me fait un contre-interrogatoire à la Perry Mason?
Bah, vous avez d'autres armes ou pas? Demanda Telford. Vous en avez forcément d'autres si vous avez vraiment l'intention d'affronter les loups. Pour ma part, je pense que c'est de la folie, pure et simple. J'ai jamais caché von Eisenhart du même avis.
Haverhalser était de cet avis, il en a changé, fit Eddie sur un ton détaché, dans le genre on discute pour passer le temps.
Il sirota son thé et jeta un œil à Telford par-dessus le rebord de sa tasse, espérant lui voir froncer les sourcils, ou bien lancer un bref regard exaspéré. Il ne vit ni l'un ni l'autre.
« Wayne, la girouette humaine, lâcha Telford, avant de glousser. Il penche d'un côté, puis de l'autre. Je me fierai pas trop à lui, jeune saille. »
Eddie faillit répliquer. Si tu crois être tombé en pleine campagne électorale, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais n'en fais rien. Bouche cousue, en voir beaucoup, en dire peu.
Vous avez des rapides, peut-être bien, demanda Telford.
Ou des grenades?
Oh, ben, fit Eddie, ça se pourrait bien.
J'ai jamais entendu parler d'une femme pistolero.
Ah non.
Ni d'un gamin pistolero pendant qu'on y est, ni même d'un apprenti.
Comment on peut savoir que vous êtes bien ce que vous prétendez être? Dites-le moi, je vous prie.
Ah ben, voilà une colle, fit Eddie.
Il s'était pris d'une antipathie farouche pour Telford, qui lui paraissait trop vieux pour avoir des enfants en danger.
Parce que les gens vont vouloir savoir, poursuivit Telford. Sûrement avant de déclencher la foudre.
Eddie se remémora cet adage de Rallant. Nous sommes peut-être en errance, mais personne ne nous fera reculer. Il paraissait clair qu'il n'avait pas encore compris ça. En tout cas, Telford. Bien sûr, il demeurait des questions auxquelles il faudrait répondre par oui. Callahan en avait fait mention, ici Rallant l'avait confirmé. Trois choses. La première concernait l'assistance et le secours. Eddie n'avait pas le sentiment que ces questions-là avaient été posées encore. Il ne voyait pas comment elles auraient pu l'être, mais il ne croyait pas qu'elles seraient posées dans la salle du conseil, de toute façon, une fois l'heure venue. Les réponses seraient peut-être données par des petites gens comme Pocella et Rosario, qui ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Par des gens qui avaient des enfants en danger, eux.
« Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Telford. « Dites-le-moi, je vous prie. »
« Eddie Dean, de New York.
J'espère que vous ne mettez pas ma franchise en question. Par le Christ, j'espère que telle n'est pas votre intention. »
Telford recula d'un pas subitement sur ses gardes.
Eddie en éprouva une farouche satisfaction. La peur ne valait peut-être pas le respect, mais bon sang, c'était mieux que rien.
Non, pas du tout, mon ami, je vous en prie, mais dites-moi une chose. Vous êtes déjà servi de l'arme que vous portez, dites-le-moi, je vous prie.
Eddie vit que Telford, bien que le craignant, ne le croyait pas vraiment. Peut-être avait-il trop gardé de l'ancien Eddie Dean, celui qui venait réellement de New York, dans sa façon d'être et dans ses expressions, pour être cru de ce Ranger Sai. Mais Eddie pensait que le problème ne venait pas de là. Pas le fond du problème, du moins. Il avait devant lui un gars qui s'apprêtait à rester les bras croisés, à regarder des créatures venues de tonne foudre emmener les enfants de ses voisins. Et peut-être qu'un gars de ce genre ne croyait tout bonnement pas aux réponses simples et définitives que procurait une arme. Cependant, Eddie, lui, avait appris à connaître ces réponses-là, et même à les aimer. Il se rappelait leur unique et terrible journée à Ludd, à courir derrière Susanna dans son fauteuil roulant, sous un ciel plombé, tandis que résonnaient les tam-tams rituels. Il se rappelait Frank et Luster et Topsy le marin, et cette femme du nom de Maud, s'agenouillant pour embrasser un de ces fous qu'Eddie venait d'abattre. Qu'avait-elle dit?
« Vous n'auriez pas dû tuer Winston, c'était son anniversaire, un truc de ce genre. »
« Je me suis servi de celui-ci, de l'autre, et aussi du Rugger. »«
Et ne vous avisez plus jamais de me parler de la sorte, l'ami, comme si on était tous les deux en train de plaisanter gaiement. »«
Si je vous ai offensé, pistolero, j'implore votre pardon. »
Eddie se détendit un peu. Pistolero. Ce salopard à cheveux gris avait au moins eu la présence d'esprit de le dire. Même s'il n'en croyait pas un mot. L'orchestre se lança dans un nouveau morceau. Le chanteur se passa la sangle de sa guitare autour du cou et lança
« Allez tout le monde, assez baffré! Il est temps de dépenser tout ça, je veux vous voir suer !»
Il y eut des « hurrahs » et des « youpi », on entendit également une pétarade, et Eddie abaissa immédiatement la main,
comme il l'avait vu maintes fois faire à Roland pour s'emparer de son pistolet.
« Tout doux, l'ami, » fit Telford.
« Rien que des petits pétards, des gosses qui font claquer des pétards, vous a tuité. »
« Bien sûr, j'implore votre pardon. »«
Pas de quoi, »
fit Telford avec un sourire.
C'était là un beau sourire de Pat Cartwright, et Eddie y vit au moins une chose avec certitude. Cet homme-là ne se joindrait jamais à eux. Pas tant que le dernier loup de Tonnefoudre ne serait pas étendu raide mort dans ce pavillon même, prêt pour l'inspection de toute la ville. Là, ils prétendraient avoir été dans leur camp depuis le premier jour.
8. Les réjouissances se poursuivirent jusqu'au lever de lune, et cette nuit-là, la lune brillait haut et fort. Eddie dansa avec plusieurs dames de la ville, il valsa deux fois avec Susanna dans ses bras, et quand vint l'heure des carrés, elle tourna et croisa, allemande à droite, allemande à gauche, dans son fauteuil roulant avec une précision ravissante. Sous la lumière changeante des flambeaux, son visage humide de sueur exprimait le ravissement. Roland dansa, lui aussi, avec une certaine grâce. Mais, ce qu'on lui ait dit, sans style ni joie réelle, rien ne les préparait en tout cas à ce que réservait la fin de la soirée. Jake et Benny Slightman étaient allés rôder de leur côté, mais Eddie les aperçut, agenouillés au pied d'un arbre, en train de jouer à planter leur couteau dans le sol. Quand la danse prit fin, on chanta. D'abord l'orchestre lui-même qui entama par une ballade romantique pleine de mélancolie, puis une spécialité locale très enlevée dans un patois de la cala dont Eddie ne réussit pas à suivre les paroles. Mais il comprit sans peine que c'était au mieux légèrement grivois. Il y eut des cris et des rires chez les hommes et des piaillements de jubilation chez les femmes. Quelques-unes plus âgées se couvrirent les oreilles de leurs mains. À la suite de ces deux premiers airs, plusieurs personnes montèrent dans le kiosque pour chanter. Eddie se fit la remarque qu'aucune d'entre elles n'avait l'étoffe d'une star, mais toutes furent accueillies avec enthousiasme quand elles s'avancèrent à tour de rôle devant le groupe et raccompagnées par une débauche de bravo ou, dans le cas d'une jeune et jolie demoiselle, par des « encore » lascifs lorsqu'elles quittèrent la scène. Deux petites filles d'environ 9 ans, des vraies jumelles de toute évidence, chantèrent une ballade appelée « Les rues de Kampala » dans une harmonie parfaite et douloureuse, accompagnée par l'une d'elles à la guitare. Eddie fut frappé par le silence presque religieux dans lequel les Falcons les écoutèrent. Presque tous les hommes avaient beau être salement éméchés, pas un ne vint troubler l'instant. Aucun pétard n'éclata. Nombreux furent ceux, et parmi eux le nommé Haycox, qui écoutèrent avec le visage baigné de larmes. Si on lui avait posé la question un peu plus tôt, Eddie aurait répondu que, bien sûr, il mesurait la pression émotionnelle à laquelle était soumise cette ville, mais le fait est qu'il ne l'avait pas mesurée, et qu'il la mesurait maintenant. Quand la chanson de la femme kidnappée et du cow-boy mourant prit fin, il y eut un instant de silence total. Même les oiseaux de nuit s'étaient tus. Un tonnerre d'applaudissements éclata ensuite. Si on leur demandait maintenant de voter à main levée au sujet des loups, même pas Cartwright n'oserait pas s'opposer à la contre-attaque. Les fillettes firent la révérence et sautèrent lestement sur l'herbe. Eddie pensait que ce serait tout pour la soirée. Mais c'est alors qu'à sa grande surprise, Callahan grimpa sur scène et dit
« Voici une chanson encore plus triste que m'a apprise ma mère !»
Et il se lança aussitôt dans une chansonnette irlandaise trépidante.
« Offre-moi une autre tournée, espèce de sagouin !»
Elle était au moins aussi cochonne que celle jouée par l'orchestre, mais cette fois-ci, Eddie comprit la plupart des paroles.
Il se joignit gaiement au reste des habitants pour entonner le dernier vers de chaque couplet. « Avant qu'on me mette en terre, offre-moi une autre tournée, espèce de sagouin. » Susanna fit rouler son fauteuil jusqu'au belvédère et on la fit monter sur l'estrade pendant la salve d'applaudissements qui accueillit la chanson du vieux. Elle dit quelques mots aux trois guitaristes et leur fit une démonstration sur l'un des instruments. Ils acquiescèrent tous les trois. Eddie se dit qu'il devait connaître au moins une version de la chanson. La foule attendait, tout ouïe, et au premier rang, le mari de la dame en question. Il fut ravi, mais pas complètement étonné, de l'entendre attaquer « Made of Constant Sorrow » qu'il lui était arrivé de chanter en chemin. Susanna n'était pas John Baez, mais sa voix avait un timbre juste, plein d'émotion. Et alors ? C'était la chanson d'une femme qui avait quitté son foyer pour un lieu étrange. Quand elle eut fini, il n'y eut pas de moment de silence comme après la prestation des fillettes, mais une série d'applaudissements sincères et enthousiastes, ponctués par des « oui là » et des « encore, la suite ». Susanna ne connaissait pas de suite. Aussi leur fit-elle une profonde révérence en échange. Eddie applaudit à s'en faire mal aux mains, puis il se mit à siffler avec les doigts dans la bouche. Et c'est à ce moment précis, comme si les merveilles de cette soirée ne devaient jamais finir, tandis qu'on faisait redescendre Susanna avec précaution, qu'ils virent Roland en personne monter sur l'estrade. Jake et son nouveau copain avaient rejoint Eddie. C'est Benny Slightman qui portait Hot dans ses bras. Jusqu'à ce soir, Eddie aurait juré que le bafouilleur aurait mordu quiconque aurait pris cette liberté hors du cas-tête de Jake.
« Il sait chanter ?» demanda Jake.
« Si c'est le cas, je suis le dernier à le savoir, gamin, » fit Eddie. « C'est ce qu'on va voir tout de suite. »
Il ne savait pas du tout à quoi s'attendre et il fut surpris de constater combien son cœur battait fort.
9. Roland retira l'étui de son pistolet et son ceinturon. Il l'étendit à Susanna qui les saisit et se les accrocha autour de la taille. Ce faisant, elle tira sur le tissu de son chemisier et l'espace d'un instant, il sembla à Eddie que ses seins avaient grossi. Mais il imputa cette impression à une illusion d'optique et n'en tint pas compte. Les flambeaux diffusaient une lueur orange. Roland se tenait dans la lumière, désarmé et aussi mince qu'un jeune homme. Pendant un temps, il se contenta de contempler les visages silencieux et attentifs, et Eddie sentit la petite main froide de Jake se glisser dans la sienne. Pas besoin de demander au garçon ce qu'il ressentait, car Eddie ressentait exactement la même chose. Jamais il n'avait vu un homme aller si seul, si détaché du cours de la vie des hommes, avec sa chaleur et sa camaraderie. Le voir ici, en ce lieu de fiesta, car c'était bien là une fiesta, quel que fût le désespoir qu'il avait suscité, ne faisait que souligner ce qu'il était vraiment, au fond. Il était le dernier. Il n'y en avait pas d'autre que lui. Si Eddie, Jake, Susanna et Hot étaient effectivement de sa lignée, ils n'étaient que des ramifications secondaires éloignées du tronc, une poussée de sève tardive en quelque sorte. Tandis que Roland.
Chut, s'admonesta Eddie, ne pense pas à ces choses-là. Pas ce soir.
Lentement, Roland croisa les bras sur son torse fin et étroit et amena la paume de sa main droite contre sa joue gauche et la paume de sa joue gauche contre sa joue droite. Ce qui pourrait dire voulait dire que dalle. En revanche, la réaction des 700 spectateurs de la cala fut immédiate. C'est exactement le son qu'avait produit le public quand le batteur des Stones, Charlie Watts, s'était mis à cogner sur sa cloche sur un rythme syncopé qui ne pouvait être que l'intro de Honky Tonk Woman. Roland demeura dans cette position, les bras croisés, les paumes contre les joues, attendant le silence. « Quelle heureuse rencontre que la nôtre à la cala !» dit-il enfin. « Écoutez-moi, je vous prie. »
Nous disons grand merci, grondèrent-ils tous. Puis nous vous écoutons de tout cœur.
Roland hocha la tête et sourit.
« Mais mes amis et moi avons beaucoup voyagé, et il nous reste beaucoup à faire et à voir. Aussi, tant que nous demeurerons parmi vous, nous ouvrirez-vous votre cœur comme nous vous ouvrons le nôtre ?»
Eddie sentit un frisson glacé le parcourir. Il sentit la main de Jake serrer plus fort la sienne. « C'est la première de toutes les questions, songea-t-il. Avant même qu'il eût achevé sa pensée, leur réponse monta comme une vague.
« Si fait, et grand merci !»« Nous considérez-vous pour ce que nous sommes, et acceptez-vous ce que nous faisons ?»«
Et voici la deuxième, » pensa Eddie. Et ce fut à son tour de serrer la main de Jake. Il vit Telford et le dénommé Diego Adams, échanger un regard consterné, lourd de sous-entendu. Ce regard des hommes qui comprennent subitement que le marché est en train de leur passer sous le nez et qu'ils n'y peuvent strictement rien. « Trop tard, les gars, » pensa Eddie.
« Des pistoleros !» cria une voix. « Des pistoleros, droits et intègres ! Grand merci, au nom de Dieu !»
Les grondements d'approbation redoublèrent. Tonnerre d'applaudissements et de cris.
Les si faits, grand merci, et même quelques mon salaud.
Le silence revint, et Eddie attendit qu'il pose la troisième question, la plus importante. Demandez-vous assistance et secours? Mais Roland ne la posa pas. Il se contenta de dire
pour ce soir. Nous allons nous retirer et reposer notre tête, car nous sommes fatigués. Mais auparavant, je vais vous offrir une dernière chanson et quelques pas de danse, avec plaisir même, car je crois que vous connaissez les deux. »
Un grondement de liesse accueillit sa proposition. Pour les connaître, il les connaissait.
« Je la connais moi-même, et je l'aime beaucoup. » reprit Roland de Gilead. « Je la connais depuis bien longtemps, et je ne m'attendais pas à devoir entendre à nouveau la chanson du riz, surtout pas dans ma propre bouche. Je suis plus âgé à présent et plus aussi souple qu'autrefois. J'implore votre pardon si mes pieds me trahissent.
« Pistolero, grand merci à vous !» cria une femme. « Quelle joie pour nous, si fait !»
« Et pour moi non, » répondit le pistolero d'une voix douce.
« Ne suis-je pas en train de vous donner la joie née de ma joie et l'eau que je porte par la seule force de mon bras et de mon cœur ?»«
Reçois les fruits de la première récolte !» clamèrent-ils tous en cœur.
Et Eddie sentit des frissons le parcourir et les larmes lui monter aux yeux. « Oh, mon Dieu !» soupira Jake.
« Il sait tellement de choses !»«
Recevez la joie du riz !» dit Roland.
Il resta debout quelques instants dans la lueur orange, comme s'il reprenait des forces, puis il se mit à exécuter une danse qui tenait autant de la gigue que du numéro de claquette. Il commença doucement, très doucement, alternant talons et bouts de pied, talons et bouts de pied. Ses bottes répétaient sans cesse ce coup de poing sur un cercueil, mais avec un rythme bien particulier. Juste un tempo pour commencer. Puis, à mesure que les pieds du pistolero gagnaient en vitesse, ce fut plus qu'un simple tempo, ce fut une sorte de swing. C'est le seul mot qui vint à l'esprit d'Eddie, le seul qui lui parut approprié. Susanna s'approcha d'eux dans son fauteuil. Elle avait les yeux écarquillés et un sourire ébahi sur les lèvres. Elle se tenait les mains serrées sous la poitrine.
« Oh, Eddie !» soupira-t-elle. « Tu savais qu'il était capable de faire ça ? T'en avais la moindre idée ?»«
Non !» répondit Eddie. « Pas la moindre !»
10. Les pieds du pistolero dansaient de plus en plus vite dans ses vieilles bottes élimées. Plus vite. Le rythme se faisait de plus en plus limpide et Jake se rendit soudain compte qu'il connaissait ce rythme, qu'il l'avait entendu lors du premier baladage à New York, avant de retrouver Eddie, un noir avec un baladeur sur les oreilles était passé devant lui, battant la mesure avec ses sandales et lâchant un « shalaba shadabao » à voix basse. Et c'était ce même rythme que Roland reproduisait sur les planches du kiosque, chaque bao marqué par un coup de pied avant et un frappé du talon sur le bois. Autour d'eux, les gens se mirent à taper des mains, non pas en rythme, mais sur les temps faibles. Ils commençaient aussi à se balancer. Les femmes qui portaient des jupes les tirèrent devant elles et les firent tourner. Jake contemplait les visages des plus jeunes aux plus vieux, et il y lut la même expression, celle de la joie, à l'état pur. « Pas seulement », se dit-il. Et il se rappela une expression que son professeur d'anglais avait employée pour décrire l'état dans lequel peut plonger la lecture de certains livres, « l'extase de l'adéquation parfaite ». Le visage de Roland miroita bientôt de sueur. Il décroisa les bras et se mit à taper des mains. À ce signal, les habitants de la cala commencèrent à scander un mot en rythme. « Comme, comme, comme !» Jake se rappela soudain que c'était le mot que certains gosses utilisaient pour désigner le sperme, et il eut du mal à croire qu'il s'agissait là d'une simple coïncidence. « Bien sûr que non. C'est comme pour ce noir qui battait le rythme du pied. Tout ça, c'est le rayon, tout ça, c'est 19. Comme, comme, comme !» Eddie et Susanna s'étaient jointes à la chanson. Benny aussi. Jake coupa court à ses réflexions et les rejoignit à son tour. 11. Sur la fin, Eddie fut bien incapable de retracer les paroles de la chanson du riz. Pas à cause du dialecte, pas du fait de Roland, mais parce qu'elles allaient beaucoup trop vite pour qu'il pût les suivre. Une fois à la télé, il avait vu un commissaire-priseur dans les ventes aux enchères de tabac en Caroline du Sud. C'était exactement pareil. Il y avait des rimes fortes, des rimes faibles, des rimes décalées et même des rimes brisées. Des mots qui ne rimaient pas du tout, mais qu'on plaçait de force en marge de la chanson à des moments précis. Mais ça n'était pas une chanson. Pas vraiment. C'était comme une incantation ou un hip-hop déchaîné au coin d'une rue. C'était les comparaisons les plus parlantes qu'Eddie put trouver. Et tout le long, les pieds de Roland martelaient leur rythme chanteur sur le plancher de l'estrade. Tout le long, la foule tapait des mains et scandait « Comme, 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 comme ». Voici ce qu'Eddie réussit tout de même à comprendre. « Comme à Comala, le riz nous tombe dans les bras. » Petite sœur, sous l'ombrella, viens comme à là, le riz nous tombe dans les bras, et coule la rivière, oui là, Orisa nous appelle là, pour voir le riz nouveau, tout beau, comme à comme à là, comme à comme à là, le riz nous tombe dans les bras, dans nos poches tout droit, viens comme à là, les herbes poussent haut, mamselle et son damso, couchés dans les roseaux, volés petits osios dans le ciel si haut, comme à comme à là, le riz nous tombe dans les bras. » Trois couplets au moins venaient à la suite de ces deux-là. Même si Eddie avait perdu le fil depuis longtemps, il pensait en avoir saisi l'esprit. Un jeune homme et une jeune femme plantant à la fois du riz et des enfants pour le printemps à venir. Le tempo de la chanson, rapide à l'extrême au début, ne cessait d'accélérer jusqu'à ce que les paroles ne soient plus qu'un flot de charabia et que la foule applaudisse si vite que les mains se mélangeaient en une vague de chair floue. Et les talons des bottes de Roland avaient complètement disparu. Eddie aurait dit qu'il était impossible à quiconque de danser à une telle allure, surtout après avoir consommé un repas de cette richesse. « Ralentis, Roland !» se surprit-il à penser. « Là, on ne peut pas t'appeler les pompiers si tu nous pètes une soupape. » Et soudain, à un signal que ni Eddie, ni Susanna, ni Jake ne perçurent, Roland et les Falcons de la Cala s'interrompirent au beau milieu d'un couplet, levèrent les bras au ciel, donnèrent un violent coup de hanche vers l'avant, comme en plein coït,
Kamala !»
hurlèrent-ils en chœur. Et tout s'arrêta net.
Roland vacilla, les joues et le front tout ruisselant de sueur, et il bascula de la scène, s'effondrant dans la foule.
Le cœur d'Eddie fit un bond monumental dans sa poitrine. Susanna poussa un cri et se précipita en avant avec son fauteuil. Jake l'arrêta en saisissant une des poignées latérales.
« Je pense pas que ça fait partie du spectacle. »«
Ouais, moi j'en suis presque certain, renchérit Benny Slightman. » La foule poussa des hurrahs et se mit à applaudir à tout rompre. On fit passer Roland de bras en bras au-dessus du public. Lui levait les bras vers les étoiles. Sa poitrine se soulevait comme un soufflet. Eddie considéra le pistolero avec une sorte d'incrédulité hilare, le voyant rouler comme sur la crête d'une vague.
Roland qui chante, Roland qui danse, et pour couronner le tout, Roland qui nous fait une impro à la Joey Ramone.
« De quoi tu parles, trésor ?» demanda Susanna. Eddie secoua la tête.
« Aucune importance. Mais il peut rien arriver de mieux. C'est forcément la fin de la fête. »
Et c'était bien le cas. 12. Une demi-heure plus tard, quatre cavaliers descendirent lentement la grande rue de Calabrian Sturges. L'un d'eux était drapé dans un épais salidé. À chaque expiration, des panaches de vapeur s'échappaient de leur bouche et de celle de leur monture. Le ciel était constellé d'un semi-glacial d'éclats de diamants, les plus brillants d'entre tous étant le vieil astre et la vieille mère. Jake était déjà parti avec les Slightman en direction du Rocking Bee d'Eisenhart. Callahan menait les trois autres voyageurs, les devançant de quelques pas. Mais avant de les conduire où que ce soit, il avait insisté pour enrouler le pistolero dans la grosse couverture.
« Mais vous dites que nous sommes à moins de 2 kilomètres de chez vous, » avait commencé à argumenter Roland. « Oubliez votre blabla, » avait répliqué Callahan. « Les nuages ont bougé, la nuit est presque assez froide pour qu'il neige, et vous avez dansé un Kamala comme jamais je n'en ai vu depuis que je suis ici. »
« Et depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda Roland.
Callahan secoua la tête.
« J'en sais plus rien. Vraiment, pistolero. Je me rappelle assez bien comment je suis arrivé ici. C'était pendant l'hiver 1983, 9 ans après mon départ de la ville de Jerusalem Slot. 9 ans après que j'ai récolté ça. »
Il leva brièvement sa main avec la cicatrice.
« On dirait une brûlure ?» fit remarquer Eddie.
Callahan acquiesça, mais n'en dit pas plus.
Quoi qu'il en soit, ici le temps est différent, comme vous avez dû vous en rendre compte.
Il dérive, dit Susanna, comme les points cardinaux sur la boussole.
Roland, alors qu'on l'avait déjà enveloppé dans sa couverture, avait glissé un mot à Jake en lui disant au revoir. Un mot. Entre autres. Eddie avait entendu un cliquetis métallique au moment où un objet passait de la main du pistolero à celle de l'apprenti. Un peu d'argent, peut-être.
Jake et Benny Slightman étaient partis chevauchant côte à côte vers l'obscurité. Quand Jake s'était retourné pour un dernier signe de la main, Eddie lui avait répondu avec un pincement au cœur qu'il avait pris par surprise.
« Bon Dieu, t'es pas son père, » s'était-il dit, ce qui était vrai. Mais ça ne fit pas disparaître le pincement pour autant.
« Est-ce que tout va bien se passer pour lui, Roland ?»
Eddie s'attendait à « oui, forcément. » Mais tout ce qu'il demandait, c'était un peu de baume à mettre sur son cœur. C'est pourquoi le long silence du pistolero l'alarma.
Roland finit par répondre. Il faut espérer. Et sur le sujet, Jake Chambers, il ne voulut plus dire un mot. 13. Et voilà que se détachait devant eux l'église de Callahan, un bâtiment bas et sans fioritures, avec une croix surmontant la porte.
Comment dites-vous qu'elle s'appelle, père ?
Demanda Roland. Notre-Dame de la Sérénité.
Roland hocha la tête.
Pas mal. Vous sentez ?
Demanda Callahan.
Est-ce que l'un d'entre vous sent ?
Il n'eut pas besoin de préciser de quoi il parlait.
Roland, Eddie et Susanna restèrent immobiles pendant une bonne minute, en silence.
Roland finit par secouer la tête.
Satisfait, Callahan hocha la tête. Elle dort,
puis après une pause.
Vous pouvez remercier Dieu.
Pourtant, il y a quelque chose là, fit Eddie en désignant l'église d'un signe de tête.
On dirait un... c'est pas... un poids, je dirais. Oui,
confirma Callahan.
Comme un poids. C'est affreux. Mais ce soir, elle est endormie. Dieu soit loué.
Et il traça un signe de croix dans l'air glacial. Plus bas, le long d'un sentier de terre, mais tout plat et bordé de haies soigneusement entretenues, se dressait un autre bâtiment en rondin de bois. La maison de Callahan, qu'il appelait le presbytère.
« Nous raconterez-vous votre histoire ce soir ?» fit Roland.
Callahan se tourna vers le visage fin et épuisé du pistolero et secoua la tête.
« Pas un mot, Sai. Pas même si vous étiez en forme. Mon histoire ne se raconte pas sous les étoiles. Demain, au petit déjeuner, avant que vos amis et vous ne partiez inspecter les alentours, ça vous conviendrait.
« C'est fait, » dit Roland. « Et si elle se réveille pendant la nuit ?» demanda Susanna en inclinant la tête en direction de l'église.
« Alors on ira, » fit Roland.
« Tu sais ce qu'il faut en faire, pas vrai ?» demanda Eddie.
« Peut-être bien, » acquiesça Roland.
Ils s'engagèrent sur le chemin qui menait à la maison, incluant très naturellement Callahan et leur petit groupe. « Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec ta discussion avec ce vieux Manny ?» demanda Eddie.
« Peut-être bien, » répéta Roland.
Il jeta un regard à Callahan. « Dites-moi, père, vous a-t-elle jamais envoyé Vahadash ? Vous connaissez ce terme, n'est-ce pas ?»«
Je le connais, oui, deux fois. La première, au Mexique, dans une petite ville du nom de Los Zapatos. Et la seconde, laissez-moi réfléchir, au château du roi. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir revenir cette fois-là.
« De quel roi parlez-vous ? » demanda Susanna. « D'Arthur l'aîné ?» Callahan fit non de la tête. Sur son front, la cicatrice scintillait à la lumière des étoiles.
« Mieux vaut ne pas en parler pour l'instant. Pas la nuit. »
Il adressa à Eddie un regard triste.
« Les loups arrivent. » C'est déjà assez préoccupant, et voilà que débarque un jeune homme qui m'annonce que les Red Sox ont encore perdu le championnat. Et contre les Mets ?
J'en ai bien peur, acquiesça Eddie. Et sa description de la dernière partie, une partie qui ne dit pas grand-chose à Roland, même si certains détails lui rappelaient le jeu des points, aussi appelé les Gishts, les accompagna jusqu'à la maison. Callahan avait une gouvernante. Ils ne la virent pas dans les parages, mais elle avait laissé un pot de chocolat chaud sur le poêle. Tandis qu'il buvait, Susanna se tourna vers le pistolero.
Zalia m'a dit quelque chose qui devrait t'intéresser, Roland.
Ce dernier haussa les épaules.
Le grand-père de son mari habite chez eux. Il est réputé pour être le doyen de Calabrian Sturges. Tian et le vieillard ne sont plus en bons termes depuis des années. Zalia ne sait même plus pourquoi ils se sont brouillés, c'est de l'histoire tellement ancienne, mais elle s'entend très bien avec lui. Elle dit qu'au cours des deux ou trois dernières années, il est devenu vraiment gâteux, mais qu'il a encore des accès de lucidité. Et il prétend avoir vu un de ses loups.
Mort, elle marqua une pause.
Il prétend l'avoir tué lui-même.
Par mon âme, s'exclama Callahan, que dites-vous là?
C'est pourtant vrai. En tout cas, c'est ce que dit Zalia.
Voilà une histoire qui vaudra la peine d'être entendue, dit Rolland. Est-ce que c'était lors de la dernière visite des loups?
Non. Et pas la fois précédente non plus, c'était à l'époque où même Oberholzer était encore dans ses ledges, la fois d'avant.
S'ils viennent bien tous les 23 ans, calcula Eddie, ça fait pas loin de 70 ans. Susanna acquiesça.
Mais il était déjà adulte, même à l'époque. Il a raconté à Zalia qu'une pige d'entre eux était allée se poster sur la route de l'Ouest pour attendre les loups. Je ne sais pas ce que représente une pige.
5 ou 6 hommes, dit Roland en hochant la tête au-dessus de sa tasse de chocolat.
Bref, le grand-père de Tian était de la partie et ils ont tué un des loups.
Et qu'est-ce que c'était? À quoi ça ressemblait sans son masque? Demanda Eddie.
Ça, elle ne me l'a pas dit. Je ne crois pas qu'il lui ait raconté lui-même, mais nous devrions...
Un ronflement résonna soudain, franc et sonore. Eddie et Susanna sursautèrent, puis se retournèrent. Le pistolero s'était endormi. Son menton reposait sur son torse. Il avait les bras croisés comme s'il avait sombré dans le sommeil en pensant toujours à sa petite danse et au riz. Il n'y avait qu'une chambre d'amis. Aussi Rolland dormit-il avec Callahan. Eddie et Susanna se virent donc accorder une sorte de lune de miel à la dure, leur première nuit à deux, dans un lit et sous un toit. Ils n'étaient pas trop fatigués pour en tirer profit. Après quoi, Susanna s'endormit immédiatement. Eddie resta éveillé un peu plus longtemps. Avec quelques réticences, il porta ses pensées vers la petite église proprette de Callahan, essayant d'entrer en contact avec cette chose qui dormait dessous. Une mauvaise idée, à n'en pas douter, mais il ne résista pas à l'envie d'essayer. Il n'y avait rien, ou plutôt un rien en face de quelque chose. « Je pourrais la réveiller, » pensa Eddie. « Je crois vraiment que je pourrais. »
Oui, et si j'avais une dent infectée, je pourrais me donner un coup de marteau dessus. Mais dans quel but?
Il faudra bien qu'on finisse par la réveiller, je pense qu'on va en avoir besoin.
Peut-être, mais pas aujourd'hui.
Il était temps de laisser aujourd'hui s'évanouir. Pourtant, pendant un bon moment, Eddie en fut incapable. Les images surgissaient dans son esprit comme des éclats de miroir brisés dans la lumière du soleil. De la Cala qui s'étendait sous le ciel nuageux, avec la Devoted Wye comme un ruban gris et les bandes vertes au bord. Le riz nous tombe dans les bras. Jake et Benny Slightman se regardant et éclatant de rire sans même avoir échangé un mot. L'allée d'herbe verte entre la rue et le pavillon. Les flambeaux qui changeaient de couleur. Otte qui saluait et parlait. Eld, grand merci! Avec une clarté parfaite. Susanna qui chantait « Toute ma vie, je n'ai connu que des chagrins. » Cependant, ce qu'il se rappelait le plus clairement, c'était la silhouette mince et désarmée de Roland sur l'estrade, les bras croisés sur le torse et les mains appuyées sur les genoux, et ses yeux bleus délavés qui regardaient les Falcons. Roland posant des questions. Deux questions sur les trois, et puis le son de ses bottes sur le plancher, lent d'abord, puis prenant de la vitesse, de plus en plus vite, jusqu'à ne plus être qu'une ligne floue à la lueur des torches, tapant des mains, transpirant, souriant. Pourtant, ses yeux ne souriaient pas. Pas ses yeux bleus de bombardier, ses yeux froids,
comme toujours. Pourtant, comme il avait dansé, doux Jésus, comme il avait dansé à la lueur des flambeaux.
Comme et à Comala, le riz nous tombe dans les bras, pensa Eddie.
À côté de lui, Susanna gémit dans son rêve.
Eddie se tourna vers elle et glissa la main sous son bras pour pouvoir la poser sur son sein. Sa dernière pensée fut pour Jack. Ils avaient intérêt à prendre soin de lui au ranch. Dans le cas contraire, cette bande de cow-boys mal embouchés allait le regretter. Eddie dormit. Il ne rêva pas. Et sous eux, tandis qu'avançait la nuit et que la lune se couchait, ce monde limitrophe tournait comme une horloge mourante.